RMC, 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset.
9h12, c'est RMC, le week-end des experts. La maison, c'est reparti pour notre deuxième acte. Sachez que Christian Pesset m'accompagne jusqu'à 10h et qu'à partir de 10h, vous retrouverez les GG du sport. Christian, pour ce donc cette deuxième partie dédiée à la maison, on va parler de ce qui s'est passé il y a quelques jours à Angers, hein, cette histoire dramatique, ce fait divers, ce balcon qui s'est effondré. Alors bien évidemment, il y avait des gens dessus, il y en avait beaucoup, hein. Il s'est effondré, il y a eu des décès bien sûr, et ça nous a donné l'idée en fait de faire une heure entière sur en fait la dangerosité d'une maison.
Est-ce que des maisons qui sont fissurées, dont les terrasses ne sont plus étanches, dont les balcons donc sont aussi dégradés, est-ce qu'elles peuvent être dangereuses? Alors on va répondre oui, parce que il y a eu ce cas malheureux
d'Angers. Christian, juste une chose, c'est rarissime.
Mais c'est rarissime.
Heureusement.
C'est rarissime, mais ça arrive. Et plus qu'on ne le pense, parce que là, on en a parlé fortement, parce qu'évidemment, il y a eu des victimes, et de nombreuses victimes, mais ça n'est pas un cas isolé en France. Alors, on a donc un certain nombre d'invités dans notre studio. Christian Lacroix, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes directeur du pôle France de Fraissinet. Fraissinet, c'est une entreprise spécialisée dans la réparation et le renforcement des bâtiments et des maisons. Vous êtes complètement dans le cœur du sujet. Serge Grégoire, vous êtes responsable étanchéité liquide chez Soprema.
Bonjour.
Donc, bonjour. Avec vous, on va pouvoir parler justement. Alors, j'ai régulièrement des questions sur le sujet. Donc, on va pouvoir parler de l'étanchéité des terrasses, aussi l'étanchéité des balcons, mais principalement aussi de l'étanchéité des terrasses, qui est une problématique très répandue aujourd'hui en France, avec donc des maisons. Les terrasses se sont multipliées. Souvent, il y a aussi les toits terrasses, hein, les toitures terrasses, il y en a de plus en plus. Et donc, il y a fatalement des problèmes. Et puis, nous avons Philippe Lamy, président de Lamy Expertise, qui est un important cabinet national spécialisé dans l'expertise immobilière et pour la construction, qui est en ligne. Et on va commencer par lui donner la parole. Bonjour, monsieur Lamy.
Oui, bonjour.
Bonjour. Vous êtes donc, vous ne pouviez pas être aujourd'hui dans notre studio, vous êtes donc par téléphone, mais vous allez être là pendant toute l'heure si nécessaire pour répondre aux questions d'auditeurs et de nous-mêmes. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez déjà un petit peu une expertise? Évidemment, j'imagine que ça va être beaucoup plus long que cela. Sur l'affaire du balcon d'Angers, moi j'ai mis sur notre page Facebook des photos de l'une de West France, l'autre de BFM TV, qui montrent quand même une pathologie, comme on dit, assez manifeste, à savoir une zone d'humidité extrêmement importante sur le mur, liée certainement à la descente d'eau pluviale à côté, qui a dû quand même certainement fragiliser les choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que déjà on vous a questionné sur le sujet?
Alors écoutez, oui, bien sûr, c'est un drame que personne ne peut ignorer. Je pense d'ailleurs que c'est avant tout sous l'angle du drame qu'on aurait pu éviter.
Bien sûr.
Il faut aborder cette rubrique. Certainement, sans préjuger des résultats de l'enquête, on peut incriminer un défaut d'étanchéité qui a entraîné une oxydation des aciers.
Oui.
C'est une première apparente évidence. Une autre apparente évidence, c'est que on a mis beaucoup de monde sur ce balcon. Beaucoup de monde est venu sur ce balcon. Et il faudrait peut-être que les balcons, comme les ascenseurs, comportent une mention du nombre de personnes admissibles.
Oui.
C'est vrai que maintenant, les gens fument dehors plutôt qu'à l'intérieur. Oui. On a une problématique qui est un peu nouvelle.
Mais on dit que les balcons sont au minimum calibrés pour faire 160%. J'ai entendu cette information.
Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. On ne sait pas ce que ça représente, 160% de la charge. C'est vrai qu'il faudrait peut-être indiquer le nombre de personnes maximum qu'un balcon peut recevoir.
Voilà, alors c'est une piste, mais je pense surtout qu'il faudrait faire des balcons qui soient correctement dimensionnés. Mais là encore, je ne veux pas préjuger sur l'état de l'enquête.
Les fers, au vu de la photo, le ferraillage semble extrêmement mince, je ne sais pas, et fin, je ne sais pas si vous avez
regardé. Voilà, je me suis fait cette même remarque, mais je n'ai pas eu accès au dossier personnellement.
Bien sûr.
Et cet affinement des aciers peut aussi être fait d'une lente oxydation.
Oui.
Donc la partie visible n'est pas forcément celle qu'il faut véritablement prendre en compte. Mais il est certain qu'il peut s'ajouter aux deux premiers facteurs que j'ai évoqués, la problématique d'humidité et d'oxydation, ainsi que de surcharge. Un autre facteur, ça serait une malfaçon au niveau de sa conception ou de sa réalisation.
Oui.
Et ce qui entraînerait ce drame. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que ces drames-là sont prévisibles. Et comme ça a été dit au début de cette émission, C'est pas un cas isolé. On en parle beaucoup parce que c'est parce que
c'est pas un cas isolé.
C'est-à-dire, vous êtes en train de nous dire que ça arrive. Alors peut-être pas souvent, mais plus qu'on ne le croit. Ces chutes de balcon.
Voilà, ces cas ne sont pas toujours médiatisés parce que il y a pas toujours quatre personnes qui se tuent d'un coup, mais il y a eu cette année plusieurs balcons qui sont tombés, des gardes corps qui sont tombés.
Ah oui.
Je connais moi-même une personne qui a perdu un parent parce qu'il s'est appuyé sur un garde corps qui a cédé. C'est des choses qui arrivent. Donc c'est là que je pense qu'il est important d'évoquer la possible prévention sur ces cas, alerter peut-être le public sur les facteurs qui sont très souvent liés à une humidité qui accède jusqu'aux aciers et permet leur oxydation. C'est certain que si on est en face d'un défaut de conception ou de réalisation, malheureusement, à part faire des expertises poussées, on ne le voit pas. Donc c'est pas l'utilisateur ou le particulier qui va nous alerter. Mais je dirais que dans beaucoup de cas où il y a le moins de suspicions, il faut engager une expertise et pas tout, qui se révèle effectivement extrêmement économe de vie humaine si on peut permettre de prévenir des drames comme celui-ci.
Mais typiquement, Christian, Philippe, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs sur un drame, le drame qui s'est déroulé à Angers? Est-ce que il y a des signes qui montrent que on est sur une structure qui risque de s'effondrer?
Je dirais simplement, il suffit de voir la photo de ce balcon pour se dire qu'il y avait forcément quelque chose qui n'allait pas, hein, puisqu'il y a une trace d'humidité de 50 cm à peu près sur le mur. Je sais pas ce qu'on pense.
Je pense que, bien heureusement, c'est pas chaque fois qu'on a un peu de noirceur ou de moisissure sur un ouvrage, il va y avoir une chute de balcon aussi grave, mais je pense qu'effectivement, ces signes-là devraient être une alerte immédiate. C'est au syndic des copropriétés ou propriétaires, lorsque c'est un investisseur institutionnel, d'alerter le plus tôt possible un cabinet d'expertise pour opérer des contrôles qui sont parfois assez lourds, hein, puisque si on suspecte une problématique de perte de résistance des aciers, il faut faire des différentes opérations qui nécessitent la mise en œuvre de matériel compliqué. Mais enfin, c'est comparé au risque en termes de vie humaine, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire.
Bien sûr. Philippe, Christian, nos invités, on revient dans un instant. On se posera peut-être aussi la question, est-ce qu'il y a des immeubles qui seraient peut-être plus susceptibles d'avoir des balcons plus fragiles?
Ceux qui ont des balcons.
Ah voilà, au moins comme ça c'est clair. Il est 9h20, c'est RMC, on revient dans un instant pour ce week-end des experts maison. On parle de notre habitation qui peut devenir dangereuse dans certains cas. 32-16 si vous voulez nous joindre, à tout de suite.
RMC, 8h-10h, votre maison. RMC jusqu'à 10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset.
9h22, c'est RMC. Le week-end des experts et la maison. Ce matin, on parle de notre habitation qui peut être dans certains cas dangereuse. Évidemment, on a rebondi sur ce fait divers, hein, dramatique de la semaine dernière. Cet appartement à Angers dont le balcon s'est effondré avec des gens dessus, hein. Il y a eu, je crois, 4 décès. C'est terrible. Mais cela dit, on se rend compte que c'est un drame qui arrive assez souvent.
Oui, c'est plus fréquent qu'on ne le pense.
Nous avons Michel au 3216 qui nous a appelé. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Bonjour, on vous écoute, Michel.
Oui, voilà, je suis président du conseil syndical d'une copropriété qui comporte 2 immeubles au-dessus de Barcelonnette, à Doncaster, 100 mètres. Alors, ces 2 blocs, un est vertical, la façade verticale, donc c'est le balcon en attique qui seul présente des problèmes d'infiltration. Et l'autre bloc est un bloc à structure pyramidale, donc tous les balcons sont concernés. Nous avons noté depuis quelque temps que ces balcons se délitaient sur leur pénétration de l'air. En plus, il y a des questions de pont thermique qui sont importantes à cette altitude. Alors, les nez de balcon, les dégâts constatés sont les nez de balcon qui se délitent. Et en plus d'une dégradation des bétons, c'est-à-dire que les morceaux de béton s'effondrent. Et nous sommes dans l'expectative de savoir ce qu'il conviendrait de faire.
Vous avez peur que ça s'effondre, Michel, sincèrement?
Oui, c'est ça, c'est votre inquiétude.
Je n'ai pas peur que ça s'effondre, mais nous présentons dans les sous-faces des balcons...
Oui.
Des infiltrations avec
C'est assez suspect, on va dire.
Alors il y a deux de nos intervenants qui peuvent complètement s'exprimer. D'abord Christian Lacroix, Qu'est-ce qu'on peut dire? Justement, vous êtes intervenu, vous nous le disiez en antenne, vous êtes intervenu plusieurs fois, donc notamment cet été, sur des cas comme ça. Oui. L'analyse là du cas présent.
Ben, tout à fait. Ce qu'il faut se dire, c'est que les balcons sont des parties très sensibles d'une construction.
La plus fragile.
Absolument, c'est la partie la plus fragile, parce que quand vous prenez une dalle dans un appartement, elle repose sur quatre appuis.
Et oui.
Le balcon repose sur un seul appui, il est en porte-à-faux.
Et oui,
donc c'est la partie la plus fragile, parce que si une partie lâche, forcément ça tombe et ça casse. La chance que l'on a, c'est que c'est pas la partie la plus habitée, parce qu'on y est rarement sur les balcons, mais beaucoup de balcons tombent. Enfin, il y en a cet été, en 3-4 mois, il y en a eu 3. Il y en a eu un à Mers-les-Bains, un à Bordeaux, celui d'Angers. Donc c'est pas des événements qui sont rares. C'est des événements qui se produisent une dizaine de fois par an, à mon avis.
D'accord. Alors là, le cas précis.
Alors, en plus, c'est des parties d'ouvrages qui sont très sollicités. C'est très sollicité parce qu'il y a toutes les agressions climatiques. La dalle dans le bâtiment, elle est en température ambiante, avec une humidité normale. En extérieur, le balcon, il est sollicité à la neige, à la pluie, et en particulier pour notre affaire, c'est en montagne, donc avec le froid, les écarts de température très importants.
Donc on a une perte d'étanchéité, on a une dégradation visiblement du béton.
Bah, dans la question de Michel, le souci c'est que son béton s'éclate. Pourquoi ? Parce que l'eau a pénétré dans le béton, elle a fait oxyder les aciers, la rouille gonfle, l'acier fait éclater le béton.
En quelques mots, concernant l'étanchéité, Serge Grégoire.
Oui, vous parlez typiquement ce cas-là qui nous occupe, donne des moments de pathologie qui nous permettent de vérifier si nous avons, vous parliez de défaut d'étanchéité, encore faut-il qu'il y en ait une sur des balcons qui ne sont pas, fait, en neuf étanchés. La plupart des balcons des années 20, 60, 80, 90 n'ont pas reçu l'étanchéité. C'est d'ailleurs l'occasion de notre métier. De fait, ce que monsieur décrit comme un éclatement des nez de balcon, des la quitte en sous-face, la peinture qui tombe sur le nez du voisin en dessous, sont des symptômes qui nous permettent de dire qu'il y a un défaut d'entretien et qu'il faut à ce niveau-là, sans aller jusqu'au drame, vérifier déjà pourquoi pas la solidité, faire appel à un expert judiciaire via une copropriété et l'architecte de la copropriété qui s'occupe en général de ce genre de choses.
Oui, mais après on rentre évidemment dans des dépenses qui peuvent être importantes, etc. Et donc voilà. Messieurs, on revient dans un instant, bientôt 9h30, la météo, les infos, et puis vous restez avec nous car je vais vous offrir un très joli cadeau ce matin. Ah oui, Christian, là franchement ça vous fait plaisir. Si vous auriez pu jouer, je pense que ça vous aurait plu.
Oui.
C'est un séjour dans un bel endroit avec un spa en plus.
Ah.
Donc vous restez là, on vous explique tout juste après la météo, les infos de 9h30. À tout de suite.
Rejoignez les experts maison sur leur page Facebook, Votre Maison sur RMC.
Christian Fesset.
Oui, François Sorel.
Ça aussi, c'est dangereux.
Ah oui.
C'est la question flash.
Ah oui.
Ça peut s'effondrer en quelques secondes.
Je pourrais m'effondrer, mais
oui,
non.
Bien sûr.
Ça n'est jamais arrivé.
Mais non, parce que vous n'êtes pas fissuré, donc tout va bien. La question de Fred.
Oui.
J'ai acheté un radiateur électrique d'appoint.
Oui.
Et il fait sauter les plombs quand je branche dans la salle de bain.
Oui.
Est-ce qu'il a un défaut ou est-ce un problème d'installation?
Alors, peut-être que si notre auditeur Fred a encore des fusibles à plomb, ça pourrait être vraiment un problème d'installation.
Ah oui.
Bon, j'espère que c'est un abus de terme pour désigner donc les fusibles ou les disjoncteurs qui se mettraient donc en fonctionnement et qui couperaient les circuits. Alors, bien sûr, on peut pas exclure un défaut de l'appareil. En principe, quand ils sont neufs, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Alors, ensuite, quelle pourrait être l'origine? Eh bien, l'origine, c'est, par exemple, lorsqu'on l'appareil puissant demande une puissance supérieure à ce que peut supporter le circuit lui-même et pour lequel est calibré strictement, autrefois le fusible, ensuite le coupe-circuit, aujourd'hui, le disjoncteur différentiel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il fait fonctionner donc le disjoncteur ou l'appareil de protection du circuit, et puis il coupe tout simplement l'alimentation automatiquement. Alors ça peut aussi être une surcharge suivant la comment est foutue l'installation, si j'ose dire. Ça peut être une surcharge générale, de l'installation, c'est-à-dire que en fait, il y a un appel de puissance qui se produit et qui est supérieur, qui dépasse la puissance souscrite de l'abonnement. Alors là, évidemment, on a dépassé. Alors deux solutions, soit on demande une puissance supplémentaire, soit on installe un délesteur sur l'installation qui va couper l'alimentation de certains circuits et de certains appareils, par exemple le chauffe-eau, qui ne serait pas prioritaire.
32-16 pour toutes vos questions bricolage, maison, déco. C'était RMC, c'est le week-end des experts. À tout de suite.
RMC, c'est au 32-16.
45 centimes la minute.
Et au 7-32-16.
65 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, votre maison. François Sorel, Christian Pesset.
Voilà, 9h35, c'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est la maison avec Christian Pesset et nos invités. On évoque la dangerosité de certaines parties de notre maison. Ça peut être la terrasse, ça peut être le balcon, bien sûr. Ça peut être aussi les murs ou les plafonds. Mais avant de repartir sur ce sujet, j'ai un très beau cadeau maintenant à vous offrir sur RMC. Il s'agit d'un séjour à l'hostellerie. Écoutez bien, Christian. L'hostellerie Bérard et Spa. Ah. 3 étoiles. C'est à la Cadière d'Azur. C'est dans le Var. Département que vous appréciez. Voilà, particulièrement. Alors, on vous offre une nuit en chambre double supérieure, les petits déjeuners, un accueil VIP. C'est-à-dire qu'on vous appellera par votre nom, oui. Monsieur Christian Pesset.
Et prénom, oui.
Voilà, c'est ça. Un repas gastronomique hors boisson et un accès au spa. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de nous envoyer maintenant les 3 lettres de votre radio RMC par SMS au 732-16. Vous envoyez RMC par SMS au 732-16 et à vous ce petit séjour, pourquoi pas en amoureux, le temps d'un week-end dans un bel hôtel. À vous de jouer et bonne chance.
Gagnez votre séjour grâce à weekendbest.fr, leader et spécialiste du week-end thématique.
Christian,
oui,
on repart sur notre sujet.
On repart sur votre maison est-elle dangereuse?
Bien sûr.
Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs?
Philippe, nous aurons Anne-Marie dans un instant.
Voilà, dans un instant. Philippe Lamy, est-ce que vous intervenez parfois en expertise préventive sur des chantiers ou ensuite sur des maisons qui donneraient des signes de faiblesse?
Oui, bien sûr. On intervient lorsqu'il y a des signes avant-coureurs ou des signes alarmants. Sur des ouvrages qui... D'ailleurs, dans les critères, le critère du signal alarmant sont très, très différemment perçus par les utilisateurs. Parce que finalement, il y a des signes qui seraient alarmants, qui ne sont pas compris comme tels, qui ne sont pas vus comme tels. Et puis, il y en a qui sont effectivement visibles et qui méritent que les gens s'alarment.
Alors, signal alarmant, vous pouvez nous en donner quelques-uns?
Alors, les signal alarmants, c'est toujours les fissures. Alors, ces fissures, ouais. Contrairement à un avis... très répandues, c'est pas parce qu'elles sont forcément grosses.
Bien sûr.
Qu'elles sont très alarmantes. Des fissures extrêmement fines en cheveux qui montrent juste une désolidarisation d'éléments structurels. Et pour autant que la fissure soit horizontale, il peut y avoir un poids tel sur cette fissure qu'elle se referme pratiquement totalement jusqu'à être
non-visible. Oui, oui.
Et je dirais que c'est la plus dangereuse et la plus très.
Ouais, les fissures horizontales, je crois, sont reconnues comme souvent les plus dangereuses.
Bien sûr, ouais. Puisque on a un bâtiment qui peut finalement, s'il y a plusieurs fissures horizontales à différents niveaux, ouais. S'affaisser comme vos genoux s'affaissent lorsqu'on vous donne une
fissure. Bien sûr, puis c'est surtout le caractère évolutif, donc qu'il faut prendre en compte.
Alors, bien entendu, quand il y a des fissures sur une structure, ça peut être par l'exposition de parties d'ouvrage qui sont exposées trop à l'eau ou même au gel, ça n'a pas été évoqué tout à l'heure, mais le gel également est un facteur aggravant. Dès lors qu'une structure est imprégnée d'eau,
évidemment.
Épisode de gel après épisode de gel, elle éclate, elle crée un chemin encore plus grand pour l'eau et les choses sont évolutives.
Très bien.
Les fissures évolutives les plus courantes que l'on voit, c'est celles qui sont liées à un tassement différentiel, qui peut être consécutif à une instabilité du sol, par exemple argile gonflante.
Ouais, on en a parlé, ça.
Voilà, ou un accident de canalisation qui a affouillé le sol sous les fondations, entraînant une perte d'appui. Ce que je dirais aussi, c'est qu'en termes de prévention, puisque c'était la prévention qui était le début de votre question, il y a aussi une remarque assez intéressante, c'est que beaucoup de propriétaires institutionnels en particulier font systématiquement une expertise préventive à la fin de la garantie décennale.
Oui.
Parce que c'est vrai que si les choses sont déjà au niveau du 9e anniversaire, 8e anniversaire, si on n'a rien décidé à ce moment-là, on a des chances d'être plus tranquille. Un bâtiment qui a tenu pendant 9 ans, en principe, il est plus fiable. Donc, un conseil, bien sûr, en termes d'expertise préventive, c'est de faire venir un expert spécialisé en structure, comme notre cabinet, dès qu'on a le moins de suspicions, mais aussi très systématiquement avant la fin de la garantie.
D'accord. Merci, Philippe.
Merci.
On accueille Anne-Marie au 32-16. Bonjour, Anne-Marie.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour toute l'équipe de RMC, je vous remercie encore pour votre émission.
Merci à vous de nous écouter, on vous écoute. Justement.
Voilà, donc écoutez, j'ai une question donc concernant ma maison individuelle, donc j'habite sur Perpignan. Et donc voilà ma problématique, et il s'avère que ma maison donc a des fissures. Ces fissures sont apparues déjà, donc il y a eu une première intervention donc sous la décennale. Ma construction date de 1995 et donc des travaux ont été effectués en 2004 suite à un passage des experts et donc il y a donc rapporter donc un problème de sol argilo-gonflant.
Oui, ben ça, un grand classique. Hein.
Voilà. Et donc, une partie de notre maison individuelle qui est avec une charpente métallique. Donc, de ce fait, des travaux ont été effectués avec donc une injection de, énorme de béton sur deux côtés de la façade. Donc, façade sud et façade est.
Oui.
Plus une désolidarisation de la toiture de la charpente métallique.
Alors, quelle est votre question ?
Donc voilà, donc des fissures apparaissent depuis là, un petit peu en fin d'hiver, fin du printemps, sont apparues. Et là, avec l'été, si vous voulez, on a eu sur Perpignan, nous sommes donc avec un arrêté de restriction d'eau. Donc par rapport aux catastrophes naturelles, j'avais fait une demande, parce qu'effectivement, ces fissures s'agrandissent. Et donc, voilà, donc je voulais savoir quelles étaient les démarches, parce qu'en fait, on a fait une démarche auprès de la mairie, donc pour rendre en compte cette catastrophe naturelle en tant que sécheresse, hein, parce que ça gonfle, on a quand même des sinistres qui arrivent dans la maison, c'est-à-dire qu'il y a le...
Mais donc, vous avez fait votre déclaration à l'assurance, et vous avez fait une déclaration en mairie?
Oui. Bon. Voilà. Alors à l'assurance, ils m'ont dit qu'ils, dans leur lettre, ils m'ont dit que de toute façon, c'était pas pris en compte.
Pourquoi ?
Parce que c'est par rapport à la catastrophe naturelle, il fallait que ce soit un arrêté.
Mais il y a eu un arrêté ou il n'y a pas d'arrêté ?
Non, il y a eu simplement une restriction d'eau.
Ah ben si, il n'y avait pas eu d'arrêté, donc là effectivement, à mon avis, ça ne sera pas pris en compte. Christian Lacroix, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, écoutez, ce que j'en pense, c'est qu'il y a des travaux qui ont été faits en 2004 de reprise en sous-œuvre, apparemment, mais n'ont pas été satisfaisants parce que il y a des désordres nouveaux qui se produisent. Malheureusement, les travaux datent de plus de 10 ans, donc elle peut même pas, Anne-Marie ne peut pas recourir à l'assurance de l'entreprise qui a fait les travaux.
Et puis même en général, les assurances refusent s'il n'y a pas eu d'études de sol préalable. Hein. on voit ces cas-là. Vous aviez une étude de sol avant de construire votre maison?
Parce qu'on ne le demandait pas à l'époque.
On ne vous le demandait pas, mais personne ne le demande. Il n'y a absolument pas d'obligation de faire une étude de sol. Simplement, je le dis et je le crie très fort, j'ai une antenne là pour le faire. Lorsque vous faites construire, eh bien, faites faire une étude de sol avant. Dans tous les cas, il n'y a pas de question. Bon, on dit, ah bah oui, mais là, s'il n'y a pas de risque par là, mais demandez une étude de sol. Ça va vous grever un peu le budget, mais c'est absolument indispensable. Enfin, je ne sais pas ce qu'on pense.
Une étude de sol au moment de la construction de l'ouvrage, mais aussi au moment de la réparation. Parce qu'en 2004, il y a eu des travaux de consolidation, et c'est à ce moment-là également qu'il aurait dû y avoir une étude de sol de réaliser.
Et ça coûte cher, une étude de sol?
Alors ça, je n'en ai aucune idée personnellement, mais...
2 000 euros à peu près.
2 000 euros, d'accord. Ah,
voilà. Oui, enfin finalement, si on investit plusieurs centaines de milliers d'euros, finalement, c'est une goutte d'eau, donc il faut le faire.
Bien sûr.
9h43, on revient dans un instant, c'est RMC. On évoque ce matin les habitations dangereuses, une fissure qui apparaît comme ça, sur le plafond, sur les murs.
D'étanchéité de terrasse, notamment.
Étanchéité de terrasse, bien évidemment aussi. Si vous avez des questions, si vous voulez témoigner ce matin, vous avez encore une petite dizaine de minutes pour le faire. 3216 ou maison@rmc.fr par mail. À tout de suite.
RMC, votre maison. RMC, 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset.
Voilà, un petit peu plus de 10h moins le quart. C'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est la maison. Et notez que à partir de 10h, vous retrouverez les GG du sport, comme chaque samedi et dimanche. Christian,
oui.
Notre habitation est-elle dangereuse?
Notre
on évoque ce sujet
voilà, est-elle dangereuse avec
depuis 9h avec nos invités. Et je vous invite à accueillir maintenant Jean-Denis qui nous a appelé au 3216. Bonjour Jean-Denis.
Bonjour. Bonjour messieurs. Je vous remercie de me laisser passer à l'antenne.
Mais je vous en prie.
Un peu ému déjà.
Non, on est entre nous. Vous savez.
Voilà, j'avais les droits au but. Voilà, donc je suis propriétaire d'une villa, donc j'habite à Marseille, avec une terrasse de 20 mètres carrés. C'est une maison très très vieille qui date sans doute des années 1920-1930. Et la terrasse, le carrelage a été refait par mes parents à l'époque, il y a une trentaine d'années, avec des grands carreaux, avec des larges joints. Mais le problème, c'est qu'au bout d'une trentaine d'années, malheureusement, il y a des fissures, de l'eau s'est infiltrée à travers et en dessous. C'est une catastrophe.
Qu'est-ce que vous avez en dessous? C'est une pièce?
Alors, il y a en dessous, non, il y a un garage. Mais sous la terrasse, il n'y a rien, une sorte de préau. Mais par contre, les barres IPN sont extrêmement rouillés, il y a de l'eau qui passe à travers, c'est tout dégradé.
Et donc, voilà. Votre question, c'est comment refaire cette étanchéité?
Voilà, j'ai déjà fait appel à une entreprise, mais je me pose des questions sur la nature des travaux. Alors voilà, j'ai fait appel à une société qui se trouve dans les Bouches-du-Rhône, je ne vais pas la nommer.
Comme
et elle vient de démolir le carrelage et d'appliquer une chape. Une chape en béton. Et alors, on m'a dit qu'en fait, il fallait attendre 21 jours avant d'appliquer une résine.
Même 28.
28. Alors le problème, c'est que demain, il va pleuvoir.
Ah.
Et j'ai eu le directeur technique et m'a dit oui mais c'est pas grave, s'il pleut qu'un jour c'est pas grave, je vous amènerai la bâche lundi.
Non mais il n'a pas besoin d'amener une bâche sur du béton, parce qu'au contraire, plus il y a d'eau et plus ça prend.
Ah, donc est-ce qu'il a raison de mettre une bâche ou est-ce que je peux laisser comme ça sous la pluie ou...
Enfin bon, moi je parlais sous couvert de personnes plus compétentes que moi encore dans ce domaine, mais moi je dis on bâche une surface en béton quand justement il y a du soleil, hein, pour éviter qu'il y ait une prise trop rapide du ciment, puisque c'est un liant hydraulique. Mais vous posez bien la question de savoir comment on refait une étanchéité, quelles sont les solutions d'étanchéité, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de refaire la chape, voire la dalle. Serge Grégoire, donc vous êtes de chez Soprema, donc vous êtes spécialisé dans l'étanchéité. Quelle réponse apporter dans un cas de problème d'étanchéité de terrasse? Est-ce que c'est forcément nécessaire de tout casser?
Il y a toujours un diagnostic qui sera posé par l'entreprise qui a été appelée. Dans le cas qui nous concerne, visiblement, il n'y avait pas l'étanchéité préexistante à la cause du carrelage, ce qui explique les symptômes que vous avez évoqués.
Exactement.
Clairement, à partir du moment où vous devez effectivement enlever ce carrelage pour pouvoir faire une chape, il y a clairement des temps de pause. Hein. Les entreprises suivent les DTU, à savoir le code de la route qui nous oblige à faire un certain nombre
Document technique unifié.
Merci. Qui nous oblige à faire un certain nombre de précautions pour que les travaux aboutissent correctement.
Oui.
Maintenant, pour votre question de savoir est-ce qu'on met ou on met pas une bâche, de toute façon, l'entreprise, si j'ai bien compris, de mettre une résine d'étanchéité liquide.
Oui, c'est ça, c'est de l'Impermax SEL, c'est un système d'étanchéité liquide qui s'appelle Impermax, qui sera posé dans 3 semaines.
Il
y en a d'autres qui existent chez Soprema, on va dire d'aussi bonne facture.
C'est pas grave,
on les connaît pas beaucoup, mais cela dit, dans le principe, effectivement, une bonne entreprise devrait, avant même la pose d'une étanchéité liquide, faire un test d'humidité du support pour voir s'il est compatible à la mise en place d'une résine. L'intégralité des gens qui posent des systèmes, ne serait-ce que chez Soprema, font ce type de diagnostic pour éviter quelques déboires qu'il pourrait se passer.
C'est quoi une étanchéité liquide?
En fait, ce sont des polymères. On va parler vulgairement comme une grosse résine.
C'est une résine
assimilée souvent à tort à de la peinture. Leur grosse différence, c'est qu'une résine est souple et donc résiste à la fissuration du support. Et c'est ce qu'on lui demande.
D'accord.
Dans le temps. Donc voilà, c'est un liquide polymère que l'on applique la plupart du temps au rouleau, en multicouche, de façon à créer un film qui reste et qui reste étanche au-delà de la décennale, bien évidemment.
Mais alors, c'est sous chape ou ça peut être simplement en surface? C'est-à-dire que est-ce que c'est forcément opaque? Est-ce que si j'ai un dallage, je peux en mettre une transparente? Toutes les questions que se posent beaucoup de gens en France.
Ah, le principe du transparent sur un carrelage, ce serait miraculeux, mais rien ne peut éviter que l'on garde sous le carrelage de l'humidité. Et ce qui se passe, c'est que dans le temps, au niveau des du carrelage, il y a une ressuage de l'humidité sous l'effet du soleil, une remontée, et vous vous retrouvez avec des problématiques de cloquage au sein des étanchéités que connaissent bien les professionnels du domaine. De fait, il y a toujours une observation, et comme toujours, les préparations de support, c'est ce qui fera la garantie, la bonne préparation de votre,
donc,
de votre succès.
Donc, idéalement, pour Jean-Denis, là, on est parti sur on va avoir une étanchéité après la chape qui a été refaite, ou sous chape.
Ce que je comprends, c'est qu'ils vont faire une étanchéité sur une chape, et qu'il est vraisemblable qu'elle soit directement circulable, ou qu'elle soit protégée par un caillebotis ou un...
Mais quitte à avoir refait la chape, il aurait pas mieux valu la faire une étanchéité sous chape?
On peut aussi, en tout cas, avec les étanchéités liquides, faire effectivement une étanchéité sous chape pour rendre ensuite le tout circulable. Mais c'est le propre des systèmes d'étanchéité liquide d'être circulable aussi.
Christian Lacroix, vous évoquiez tout à l'heure les problèmes aussi d'étanchéité entre structures, c'est-à-dire on reprend là soit la terrasse, soit le balcon. C'est visiblement une zone de faiblesse que cette liaison où l'eau peut s'infiltrer, non ?
Absolument. Les systèmes d'étanchéité liquide sont très importants et c'est ce que nous faisons sur les balcons que nous réparons. Mais préalablement à la mise en place de cette étanchéité liquide, il faut faire la réparation du balcon si nécessaire.
D'accord.
Donc ce qui est très important, c'est d'observer sur son balcon s'il y a une fissure présente ou pas entre la façade et le balcon lui-même.
Entre la façade et le balcon.
Absolument.
C'est un peu comme entre la baignoire et le mur, quoi, finalement. C'est
absolument.
Un peu, c'est le même raisonnement, quoi. Ou la paillasse de votre... sauf que là, risque pas de s'effondrer.
C'est la source d'infiltration des eaux qui peuvent être agressives avec les climatiseurs qui peuvent être posés sur le balcon, avec le sel que l'on peut mettre sur le balcon ou les désherbants et ou même de l'eau toute simple, l'eau de pluie est agressive, oxyde le béton, oxyde les aciers et peut faire les faire rompre.
Philippe Lamy, une question que se posent beaucoup les gens lorsqu'on parle expert, expertise, on se dit ça va me coûter une fortune si j'appelle un expert. Tout bêtement, si je voulais faire appel à vous pour l'expertise de, par exemple, de mon balcon, ça coûterait cher ?
Alors, quel que soit le prix, je dirais que le ticket moyen pour une expertise pour un particulier, c'est entre 2000 et 2500 euros à
d'accord.
peu près.
Ça donne une idée déjà.
Sauf mise en œuvre de moyens techniques particuliers, de radiographie, je ne sais quoi.
Oui.
Mais l'expertise basique visuelle, c'est cet ordre-là.
D'accord.
Ce que je voulais juste dire, c'est que dans la problématique de notre auditeur de Marseille, on voit très bien qu'il est dans un état émotionnel, un état de panique, qui fait qu'il a fait appel à un professionnel de l'étanchéité. Peut-être qu'il y avait avant ça plutôt à s'intéresser à la structure porteuse de cet ouvrage, et que finalement tout ce qu'on aura fait sur l'étanchéité sera d'aucun intérêt. Parce que
ça reste sur la dégradation, quoi, simplement.
Parce qu'on aura juste réparé la phase visible, mais on n'aura pas supprimé la dangerosité. Donc, je crois que l'intervention d'un expert neutre, qui lui ne vend rien d'autre que son avis neutre, est quelque chose d'indispensable, parce que peut-être qu'on serait venu, on aurait conseillé d'abord de s'intéresser au support, à la partie structurelle. Ensuite, pour la solution d'étanchéité, on aurait peut-être avec lui cherché la meilleure et la plus adaptée. Alors qu'elle est directement, parce qu'on est en panique et dans l'urgence, aller voir une entreprise, on prend un risque majeur qui est à la fois de payer trop cher, à la fois de faire le mauvais choix.
Ça peut être le cutter sur une jambe de bois, comme on dit, quoi.
Ben exactement, voilà. Hein.
Donc, toujours, évidemment, analyser les difficultés, les risques. Alors, par rapport à... On parlait tout à l'heure des sénales, dommages ouvrages. Là aussi, je pense que c'est essentiel d'intervenir dans les 10 ans si on voit que quelque chose ne tourne pas rond.
Alors, bien sûr, non seulement il faut être très attaché à ne pas laisser passer ces dates butoirs, et d'autre part, savoir que le seul acte interruptif du délai de prescription, c'est une assignation devant le tribunal. C'est-à-dire, si vous faites une déclaration à votre assurance peu de temps avant la fin de la garantie, et elle fera traîner, pour le moment, elle dit, non, je suis hors d'atteinte. C'est comme un chercher, vous sautez sur le banc,
et
on ne peut plus vous atteindre. Voilà.
Ouais.
Tous. Une déclaration. Si, je ne connais pas d'exemple d'assureur qui ne joue pas la montre lorsque on est près de la fin de la garantie.
Oui, d'entreprise, donc. Merci pour ce dernier conseil, Philippe Lamy.
Dans ces cas passés.
Je rappelle, nous étions avec Christian Lacroix, directeur du Pôle France de Fraissinet, et Serge Grégoire, donc, étanchéité liquide chez Soprema. Et donc, Philippe Lamy, Lamy Expertise.
Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Christian, on se retrouve bien sûr samedi prochain.
Et on parlera de comment trouver un artisan.
Ah, ça, c'est important aussi. Hein. Voilà, on veut faire des petits travaux à la maison. Comment trouver le bon artisan ? Voilà. Ce sera samedi prochain et vous pourrez poser vos questions et témoigner. Il est complètement étanche. Il n'est pas fissuré. Ça, on l'a vérifié plusieurs fois. Hein. Je peux vous le dire. Lui, c'est Serge Chimon. On va le retrouver dans un instant pour les GG du sport. Salut, mon grand.
Yes, comment ça va ?
Ça va.
Ça va bien ?
Ah oui.
Christian, ça roulotte.
En pleine forme, on n'est plus fissuré du tout. On est étanche à toute critique.
Oui, mais c'est bien, mais personne ne vous critique, mon petit poussin. Personne. Vous êtes une idole absolument.
Petit poussin. Tu connais beaucoup des poussins avec une chemise en jean, toi? Moi, je franchement, j'en ai jamais vu.
Bon, on pourrait pas parler de mon émission, un peu.
Oui, si tu veux.
Oui, alors on va accueillir deux nouvelles grandes gueules. Et je sais que tu vas rester, parce qu'on va accueillir, tu sais qui rentre dans l'équipe, Émilie Andéol.
C'est vrai?
Mais oui!
Oh, génial!
Elle rentre dans l'équipe des Grandes Gueules du Sport.
Bravo!
Et Gany Yalouze, le DTN de l'athlète français.
En plus!
Qui devient une Grande Gueule du Sport. C'est aujourd'hui.
Mais
c'est dans les Grandes Gueules. Restez avec nous parce que là,
on touche l'exception.
Là, voilà, c'est ça.
Exactement. La météo, les infos, les GG du Sport. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dimanche sur RMC des 6h. Portez-vous bien.